Je ne pouvais pas mieux introduire mon message, cela m'a même fait rire, tant c'était à propos, puisque le titre de mon message c'est « Porter du fruit ». Porter du fruit. Et c'est vrai, comme le frère le disait, on porte du fruit pour les autres, mais nous le verrons aussi, avant tout, pour Dieu. Amen. Et il est important que nous puissions rendre à Dieu, après tout ce qu'il nous a donné. Amen. Alors on va voir déjà qu'à l'origine, il en est ainsi. Lisons ensemble dans Genèse chapitre 1er, verset 11. Genèse 1, 11, nous venons de chanter « Porter des fruits nouveaux ». Qu'il en soit ainsi. Genèse chapitre 1er, verset 11. Puis Dieu dit « Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. » Et cela fut ainsi. Donc le Créateur, c'est lui qui a inventé des plantes qui portent du fruit. Il est de sa volonté que la nature porte du fruit. Continuons, chapitre 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Ce n'est pas le tronc, hein, ce n'est pas l'arbre qu'on mange, ce sont ses fruits. Et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a créé beaucoup d'arbres fruitiers, dont les fruits étaient bons. Bons pas seulement dans le sens du goût, mais bons dans le sens de comestibles, bons pour la santé, bons pour l'être humain. Alors chapitre 3, versets 17 et 18, nous pouvons lire autre chose. Genèse chapitre 3, verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine quand tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et là, il y a vraiment un changement, c'est plus les bons fruits, c'est plus les beaux arbres, mais il te produira ce sol, hein, des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Amen. Alors là, il y a un changement, et combien nous pouvons le dire que dans nos vies, sans le Seigneur, nous n'avons plus beaucoup produit de bons fruits. Plutôt des épines, des chardons, des choses qui piquent, des choses qui font mal, qui ne se mangent pas, qui ne sont pas forcément comestibles. Et à cause du péché, bien ce Dieu bon qui a fait que tout soit bon et qui a créé des arbres qui puissent porter de bons fruits, eh bien tout cela à cause du péché est devenu difficile. Difficile pour nous de porter un bon fruit agréable à Dieu. Parce que le péché dans nos vies nous rend mauvais. Cette malédiction justifiée nous poursuit tout au long de notre existence et c'est devenu pénible de faire du bien. Facile de produire le mauvais et difficile de faire le bien. L'apôtre Paul dit même qu'en réalité, sans le Seigneur Jésus, on fait le mal qu'on ne veut pas faire. Et le bien qu'on veut faire, on n'y arrive pas, et que ça nous rend très malheureux, et on s'écrie « misérable que je suis, mais qui pourra faire quelque chose pour moi ? Qui me délivrera de ce corps pécheur, de ce corps mortel ?» Puisque la mort, c'est l'aboutissement du péché. Alors ne soyez pas étonnés si dans votre vie, vous avez du mal à porter de bons fruits, parce que depuis notre chute, car nous avons tous désobéi à Dieu, il est parfois difficile de produire de bonnes choses qui fassent du bien autour de nous Et bien que nous ne le voulions pas, nous avons fait pleurer notre épouse, nous avons fait du mal à notre mari, n'avons pas toujours fait du bien à nos enfants, et c'est vrai que notre compagnie n'a pas toujours été bonne et comestible, parfois épineuse, chardonneuse. Alors, dans le Nouveau Testament, l'Église est la vigne de Dieu. On le lit ensemble, Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. On lira les 17 premiers versets. C'est Jésus qui enseigne que ceux qui croient en lui, donc c'est pour cela que je parle de l'Église, deviennent une vigne pour porter du fruit pour Dieu. Jean chapitre 15, verset 1er. Je suis le vrai cep. Le vrai cep, sous-entendu, des fois on s'accroche à des choses qui ne nous donnent pas la vie. Il n'y a que lui qui vraiment peut nous donner la vie. Je suis le vrai cep. Le cep, hein, c'est un pied de vigne. Et mon père est le vigneron. Tout sarment, alors au pied de vigne, il y a des branches, on va dire ça comme ça, les sarments sont les branches sur lesquelles poussent les raisins, les grappes de raisins. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, émondés. Parce qu'en fait, émondés dans le texte, c'est le même mot, c'est purifié. Déjà, vous êtes émondés, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Enfin, rien faire de bon. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses sans le Seigneur. Mais on ne peut rien faire de bon. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu. Et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça c'est important parce que parfois on dit qu'il est écrit que tout ce qu'on va demander par la foi on l'aura. Attention, attention. Le Seigneur a dit que si on est seulement près de lui, en communion avec lui, alors nos demandes seront toutes bonnes. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce qu'on fait son maître. On lui donne des ordres, c'est tout. Mais on lui explique même pas pourquoi il doit faire ça. Mais je vous ai appelé ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Dans ce passage, le Seigneur Jésus indique que ce qui fait de quelqu'un un disciple, c'est qu'il porte du fruit. Nous l'avons lu. Un chrétien authentique a la vie de Dieu en lui, et cette vie lui permet de porter du fruit. Mais l'essentiel dans ce passage, on y reviendra plus tard, c'est quand Jésus a dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron ». Elle est la propriété de Dieu. La vigne, l'Église, est la propriété de Dieu. Et son fruit lui revient, c'est le verset 8 qui dit que le Père sera glorifié par ce fruit porté. Mon Père sera glorifié. Donc, porter du fruit pour qui? Avant tout, pour Dieu. Porter du fruit pour qu'il puisse avoir une récolte de l'œuvre qu'il a opérée. Et c'est très important, l'Église n'est pas à nous. L'Église, c'est la maison de Dieu. C'est la vigne de Dieu. Et nous pouvons, sans nous en rendre compte, nous approprier ce qui est à Dieu. Comme les Juifs, avec la parabole des vignerons. Quand Jésus parle de l'histoire d'Israël, il dit que c'est un homme qui a planté une vigne, qui en était le propriétaire, il a dû partir pour un pays lointain. Et il l'a affermi à des vignerons. Mais quand il a envoyé ses serviteurs pour avoir une part de la récolte du fruit de la vigne, ces derniers, ces vignerons, n'ont pas voulu rendre au propriétaire ce qui lui était dû. Alors le propriétaire s'est dit, je vais envoyer mon fils, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand ils l'ont vu arriver, ils ont dit, c'est l'héritier, tuons-le. Et vraiment, quand ce roi sera mort, quand ce propriétaire sera mort, la vigne nous reviendra. Et ils l'ont tué. Et que fera ce maître? Il reviendra, il détruira ses ennemis et il donnera sa vigne à d'autres. Les pharisiens ont compris que c'était eux que Jésus visait et dans la colère se sont retirés. Donc sans s'en rendre compte, Israël est devenu propriétaire de la vigne. Ne pensons pas que Israël est pire que nous. Nous aussi, sans nous en rendre compte, on peut vivre dans l'Église et s'accaparer l'Église pour soi. Vouloir du fruit, des bonnes choses, mais pour nous-mêmes. Pour entre nous-mêmes se trouver bien. Mais c'est une vigne qui doit porter du fruit pour que Dieu soit glorifié. L'Église n'appartient à personne et nous devons faire très attention. Sans nous en rendre compte, c'est notre tendance, avec le temps, de prendre à nous ce qui revient à Dieu. Notre vie lui appartient. Et ce que nous produisons sera pour lui. La conclusion de cette vigne pour Dieu, c'est le commandement de nous aimer les uns les autres. De nous aimer les uns les autres. Alors, cela me permet de faire cette transition pour une autre question. Qu'est-ce que c'est que de porter du fruit? D'un point de vue de la Bible, qu'est-ce que c'est que de porter du fruit? On peut le remarquer ici quand même, que dans ce passage qui nous parle de la vigne qui porte du fruit pour glorifier le Père, le commandement qui en ressort, c'est de nous aimer les uns les autres. Et vous verrez que dans d'autres passages qui parlent du fruit dans le Nouveau Testament, l'amour revient souvent en premier. Le fruit que nous avons apporté, qui est bon pour les autres, très certainement, mais qui est avant tout a pour but de glorifier Dieu, c'est l'amour. C'est un commandement de nous aimer les uns les autres. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais lorsque j'étais dans une assemblée, un frère qui avait été mon président, c'est les termes ADD de l'époque, il était assis à côté de moi, c'était lui qui devait prêcher et je le voyais en difficulté, parce qu'on est tous parfois en difficulté d'aimer. Et je l'entendais prier à côté de moi, il dit, mais toi tu les aimes Seigneur. Sous-entendu par là, je ne sais pas comment tu fais pour tous les aimer, mais si tu les aimes, je dois les aimer. Amen. L'amour est un commandement. Ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas forcément facile d'aimer. Si, aimer les gens qui nous ressemblent, et aimer les gens avec lesquels on est d'accord, mais tout ça c'est facile. Mais je ne suis pas persuadé que c'est l'amour. Peut-être l'amour de soi. l'amour des points communs, peut-être l'affinité. Mais est-ce que l'affinité, c'est l'amour de Dieu? Je pense pas. La Bible dit, bien-aimé, que votre foi soit exempte de tout favoritisme. Ah oui? Si dans l'Église, on aime se retrouver avec les mêmes, à 3, 4, 5, 10, qu'en sais-je, c'est pas l'amour de Dieu. Parce que la Bible dit que votre foi soit exempte de tout favoritisme. Et Jésus dit, ce que je vous commande, ce que je vous ordonne, c'est de vous aimer tous les uns les autres. Alléluia. C'est un fruit qui peut venir que d'en haut. Parce que l'amour qui sélectionne, on en est capable. C'est humain. C'est charnel même parfois. Mais l'amour pour tous, il n'y a que Dieu qui a dit, il n'y a que Dieu puisque c'est écrit, car Dieu a tant aimé le monde. Vous aimez tout le monde? Dieu a tant aimé le monde. Et son amour n'a pas été qu'un amour en paroles. Alors, feuilletons quelques références qui nous définissent ce que c'est que le fruit d'après le Nouveau Testament. Romains chapitre 6, verset 22, s'il vous plaît. Romains chapitre 6, verset 22. Le mieux pour savoir ce qu'il en est, c'est de voir ce que la Bible elle-même en dit. Romains 6, 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit, alors quoi ? La sainteté et pour fin, la vie éternelle. Amen. Un des fruits que nous devons porter pour glorifier Dieu, c'est la sainteté. Amen. Dieu est un Dieu de sainteté. Son palais est orné de sainteté. Son représentant le plus éminent dans l'ancienne alliance avait sur son front une lame sur laquelle il était écrit « Sainteté à l'Éternel ». Les anges eux-mêmes ne se lassent de répéter dans le prophète Ésaïe, puis même dans l'Apocalypse, pour toujours, saint, saint, saint est l'Éternel, le Seigneur ou le Dieu des armées. Alléluia. Dieu est saint, et il a dit, vous serez saints, car je suis saint. Et Pierre le répète dans son première épître pour dire, soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Un fruit que nous devons porter, c'est la sainteté. Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 11, je ne développerai pas simplement, nous allons survoler ce que Dieu attend de nous en tant que vigne. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Éphésiens 5, 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière, donc le fruit qu'on porte en Jésus-Christ, c'est quoi ? Consiste en toutes sortes de bonté, justice et vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres, là qui ne portent pas de fruits, aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. C'est vrai que la vie dans le noir, c'est une vie sans fruits. La vie dans la lumière de Dieu, c'est une vie féconde. Dieu soit béni. Et ici, trois choses nous sont présentées, bonté, justice, vérité. Et je suis persuadé que le Saint-Esprit qui a inspiré l'homme de Dieu a donné cet ordre à bon escient, d'abord la bonté, ensuite la justice et après la vérité. Lorsqu'on est beaucoup plus jeune, on est très à cheval sur la justice et la vérité. Mais je crois, nous le verrons tout à l'heure, que dans le fruit de l'esprit, le premier de ces aspects, c'est l'amour. Jésus, dans ce texte sur la vigne, a dit « Le commandement, c'est de vous aimer les uns les autres. » Et Paul ici parle d'abord de bonté, après de justice et de vérité. Je crois que si ce n'est pas avant tout la bonté, en fait, après, ce n'est pas de la justice, c'est de la dureté. Et après, ce n'est pas de la vérité, non. C'est souvent de l'orgueil, pour avoir raison. Bonté, justice, vérité. Amen. Ça, c'est un bon fruit. Bonté, justice, vérité. Philippiens, chapitre 4, versets 16 et 17. Philippiens, chapitre 4, verset 16. Philippiens, chapitre 4, verset 16. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes, ce sont des temps un peu usités aujourd'hui, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, l'argent, mais je recherche le fruit qui abonde, non pas pour votre compte en banque, mais pour votre compte céleste. Amen. Ça n'existe pas, on voit la banque postale ou autre, mais il y a une banque céleste, gloire à Dieu, sur laquelle les choses peuvent être créditées. Quel est le fruit ici? L'offrande financière. Le contexte, rapidement, l'apôtre Paul écrit l'épître aux Philippiens, comme un mot de remerciement, parce que ces chrétiens de Philippe lui avaient envoyé une forte somme d'argent afin qu'il se consacre à son ministère. Et nous apprenons ici d'ailleurs qu'ils ne l'ont pas fait qu'une seule fois. Les Philippiens se sont caractérisés par ce fruit de la générosité en donnant à plusieurs reprises de l'argent aux serviteurs de Dieu pour l'exercice de leur ministère. Donc, mon message, c'est porter du fruit, d'emporter du fruit. L'Écriture parle de cela, permettez-moi d'en parler quelques secondes. Si nous sommes bien dans la vie, il me semble, c'est grâce à Dieu. Alors vous me direz, oui, mais les chrétiens donnent une offrande, ils perdent de l'argent. Il ne faut jamais penser comme cela. Parce que je pense qu'un chrétien gagne beaucoup plus d'argent qu'il n'en perd. Parce que nous n'en perdons ni au loto, ni avec les cigarettes, ni dans les boîtes de nuit, ni dans toutes sortes de passions et de vices qui coûtent très cher. Et surtout, nous pouvons dire que si par la grâce de Dieu, nous avons une belle vie d'un point de vue matériel, c'est parce que le Seigneur nous a permis de bâtir une vie solide, et notamment de nous marier, d'avoir des enfants, de ne pas nous séparer. Mais Dieu nous a bénis bien plus que nous ne le méritions. Nous n'avons pas de l'argent parce que nous sommes des bosseurs et des travailleurs avant tout, mais nous avons de l'argent parce que Dieu nous a sauvés, Dieu nous a relevés, Dieu a payé nos dettes pour certains d'entre nous. Nous sommes venus à l'Évangile et nous avions de grosses dettes, mais Dieu nous a fait grâce. Alléluia. Alors c'est tout à fait normal que nous rendions à Dieu ce que nous lui devions, c'est-à-dire la dîme, 10%, de tous nos revenus. Ce n'est pas le sujet, je ne vais pas faire une étude sur cela, mais plus tard, quand le cœur me dira, on pourra en partager. Mais simplement pour vous dire que dans le fruit que nous avons apporté pour Dieu, c'est une offrande financière aussi. Honore l'Éternel avec tes biens. Amen. Avec les prémices de tous tes revenus. Nous voulons porter un fruit à la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour que l'Église ait de l'argent, c'est pour que Dieu soit glorifié. Amen. Alors, je vous encourage à porter ce fruit. C'est plus facile ça que d'aimer. je trouve que c'est plus facile de donner son offrande que d'aimer tout le monde. Alors si c'est plus facile, on peut commencer déjà par ce qui est plus facile. Hébreux chapitre 13, verset 15. Un autre fruit. Hébreux chapitre 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. Il est question du fruit de nos lèvres. Donc il y a le fruit de notre travail, l'argent, il y a le fruit de ce que Dieu fait dans nos vies, l'amour, et il y a aussi le fruit de nos lèvres. Qui confesse son nom. Alléluia. Portons du fruit dans notre bouche. Amen. Portons du fruit en glorifiant Dieu, en confessant son nom, c'est-à-dire en priant régulièrement tous les jours de la semaine. Porter du fruit, c'est que notre bouche soit utilisée pour autre chose que la calomnie, le mensonge, que sais-je encore. Porter du fruit, c'est d'abord prier Dieu, mais je pense aussi que ce n'est pas incompatible avec l'idée que de porter du fruit, c'est d'avoir de bonnes paroles. Que nos bouches portent un bon fruit. Non pas un fruit vénéneux, la mauvaise langue, la bouche qui dit du mal, qui critique, nous l'avons entendu tout à l'heure, qui condamne, ce n'est pas une bouche qui porte du fruit. Mais ayons une bouche qui porte du fruit à la gloire de Dieu et qui fasse du bien aux autres. Amen. Portions des fruits nouveaux comme nous l'avons chanté. Amen. Portions des fruits nouveaux. Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. Il est dit, Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et la loi n'est pas contre ces choses, ça veut dire que l'évangile ne contredit pas la loi. Le fruit de l'esprit. Alors comme je le disais tout d'abord, c'est l'amour. Un fruit aux 9 facettes. Quand c'est écrit le fruit de l'esprit, on s'attendrait à ce qu'il y ait une seule chose qui suive. Mais il y a 9 choses. Alors certains ont dit, ça veut dire que le fruit de l'esprit c'est l'amour, et dans l'amour, il y a toutes les choses qui sont énumérées après, peut-être. Ou on peut aussi le comprendre tout simplement que le fruit de l'esprit, c'est certes d'abord l'amour, mais il a ses 9 facettes. Et à mon avis même, ce n'est pas une liste forcément complète et exhaustive, c'est une indication pour nous dire que le fruit de l'esprit va agir dans tous les domaines de nos vies et de nos caractères. Le fruit de l'esprit va se manifester dans tous les recoins de notre vie. Alléluia. Nous avons des problèmes de caractère parfois, non? On a des problèmes, certains sont peut-être colériques. D'autres ne sont pas colériques, mais rancuniers. D'autres, que sais-je encore, lâches. On a tous des problèmes avec notre caractère, mais le Seigneur, par la puissance de son esprit, peut nous changer. Alléluia. On parle souvent de la puissance du Saint-Esprit et de la vie de l'Esprit pour les guérisons, les miracles. Mais je crois avant tout que la vie de l'Esprit, c'est la puissance de Dieu pour nous changer, pour nous rendre meilleurs, pour faire porter du fruit, là où c'était l'épine et le chardon. Je l'ai dit tout à l'heure, depuis cette malédiction, nous ne pouvons plus porter de bons fruits. Mais Dieu peut le faire en Jésus-Christ son Fils, par la puissance de son Esprit. Amen. Et vraiment, nous apporter toutes ces choses bonnes. Alors, pour qui glorifie Dieu, mais remarquez, tous les aspects du fruit de l'Esprit favorisent la vie ensemble, la vie avec les autres. L'amour, ben, ça fait du bien aux gens. La joie, ben, c'est quand même plus agréable de vivre avec quelqu'un qui est heureux plutôt qu'il soit toujours râleur et mécontent. La joie, après la joie, la paix, hein, on a besoin de paix. Hein, quand dans notre famille, notre couple, il y en a un qui part en crise, ça fait du bien la paix. La patience, la bonté, la bienveillance. Alors la foi, bah oui, la foi va aider les autres, mais on peut aussi traduire par la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Tous ces aspects du fruit de l'esprit, vraiment, favorisent la vie avec les autres. Et c'est à dessein que Paul le décrit de cette façon-là. Parce qu'au verset 25 et 26, vous pouvez regarder avec moi, il dit « Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit ». Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Paul veut vraiment dire, il parle du fruit de l'esprit dans un contexte de vie d'église et de la nécessité de ne pas se faire du mal, mais d'être unis. Parfois, il est très difficile pour une assemblée d'être unie parce que être unie, c'est pas seulement dire se taper sur l'épaule, se raisonner, dire écoutez, on a tous le même Seigneur, on veut tous aller au même endroit. Alors arrêtons, enterrons l'âge de guerre et puis faisons tous nos efforts et ça ira mieux. C'est pas comme ça l'unité. Parce que l'unité, c'est possible que à partir du moment où chacun d'entre nous, nous sommes changés par le Seigneur. Que l'on porte un nouveau fruit, des fruits de bonté, de patience, etc. Et donc l'unité de l'Église est le reflet de ce que chacun d'entre nous, nous sommes. Et pas toujours l'autre, hein. C'est pas toujours la faute de l'autre. Et ce fruit de l'Esprit est nécessaire pour vivre l'Église. Il est fondamental pour vivre l'Église. C'est une réponse aux œuvres de la chair du verset 19. Les œuvres de la chair sont. Et dans ces œuvres de la chair, il y a sept péchés, sept œuvres de la chair qui concernent aussi la vie sociale. Vous savez, je suis de plus en plus persuadé, plus les années passent, ça a commencé avec ce frère dont je parlais tout à l'heure, qu'il disait, pourtant tu les aimes. C'est lui qui, dans sa prédication, à un moment donné, le Seigneur l'avait inspiré, il avait beaucoup parlé. Sur l'importance, non pas seulement de croire en Dieu, mais de vivre dans l'Église. Il y a beaucoup de gens qui vivent sans Église et qui se croient vraiment chrétiens et qui prient chez eux. Mais une vigne, pour reprendre l'image de Jésus, ben on ne peut pas vivre en dehors du cep. Le cep, c'est Jésus. Les sarments, c'est les chrétiens. Une vigne, c'est vivre ensemble. Mais vivre ensemble, ça va nous révéler ce que nous sommes. La première expérience qui nous a révélé ce que nous sommes, c'est le mariage. Quelqu'un a dit, l'amour rend aveugle. Mais le mariage redonne la vue. C'est pas mal. Mais justement, Dieu ne veut pas que nous soyons seuls et isolés. Celui qui se tient à l'écart cherche seulement ce qui lui plaît. Il fera ce qu'il veut, il croira comme il veut, il priera comme il veut. Il fera comme il veut. Mais dans l'Église, on ne fait pas comme on veut. Et ça, c'est désagréable à la chair. Mais pourtant, c'est la voie puisque Jésus a dit « Je vous commande de vous aimer les uns les autres ». On ne peut pas s'aimer les uns les autres si déjà on n'est pas ensemble, si on ne vit pas ensemble. Alors, que Dieu puisse nous permettre de porter ces bons fruits qui le glorifieront et qui seront bons pour les autres. Je termine avec Galates 5, 22 sur la joie, c'est le deuxième aspect, la joie. Je ne sais pas si vous l'auriez mis là, peut-être vous ne l'auriez pas mis là, mais la joie. Amen. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Alors nous pouvons avoir des difficultés, des déceptions, mais approchons-nous du Seigneur. Ça glorifie Dieu, un sourire. Amen. Une bonne humeur. Êtes-vous connu dans votre entourage pour votre bonne humeur et votre joie. Amen. Alors, on remarque, je voudrais vous dire simplement, porter du fruit, donc, après avoir lu l'ensemble de ces textes, porter du fruit, ce n'est pas avoir du succès. Parce que souvent, des chrétiens vont s'apitoyer, ils vont dire, je ne porte pas de fruit pour toi, Seigneur, je n'ai pas gagné des âmes, je n'ai pas eu de guérison dans ma vie, je ne porte pas de fruit pour toi parce que je n'ai pas de résultat. Porter du fruit, ce n'est pas avoir du résultat. Très important. Nous, on se lamente de ce que Dieu seul peut faire, parce qu'il n'y a que Dieu qui sauve les âmes. Il n'y a que Dieu qui guérit les malades. Dieu ne nous demande pas d'avoir du succès, du résultat. Dieu nous demande de porter du fruit. C'est quelque chose de différent. Nous l'avons vu dans les textes, porter du fruit. Jamais il est question de résultat pour l'œuvre de Dieu. Mais il est question d'amour, de bonté, de vérité, de justice, de générosité, l'offrande. Nous avons lu ces textes. C'est important. Et la vie de l'esprit, c'est être changé plutôt que d'être puissant. Parfois, quand certains parlent de la vie de l'esprit, je suis effaré. J'ai l'impression qu'ils disent qu'ils veulent avoir l'esprit pour utiliser le Saint-Esprit et sa puissance pour faire des grandes choses. Ça me gêne beaucoup. L'Esprit est Dieu. Et nous n'avons qu'un ordre à lui donner. Nous ne pouvons pas recevoir l'Esprit pour l'utiliser. C'est l'Esprit qui nous utilise. C'est le contraire. Et puis porter du fruit, ben en fait, ça veut dire qu'on ne peut pas le fabriquer, on ne peut pas le produire nous-mêmes. Alors, dernière question pour terminer. Comment porter du fruit? On va lire le psaume 1. On a vu ce que c'était de porter du fruit. On va voir maintenant comment peut-on le porter. Psaume 1er. Psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes. Et la voix des pécheurs mène à la ruine. Amen. Comment porter du fruit? Ici, deux choses. Éviter les mauvaises influences et méditer la parole de Dieu. Alors quand je l'ai lu cela, j'ai ça sur le cœur. Je pense que ça peut concerner quelqu'un. Fais attention à tes relations avec les inconvertis. Fais attention. Il y a des gens avec lesquels tu ferais mieux de ne plus traîner. Comment porter du fruit en ne s'asseyant pas en compagnie des moqueurs? Le moqueur, dans le livre des Proverbes, ce n'est pas celui qui fait des blagues et qui se moque des autres. Le moqueur, c'est l'insolent qui ne croit pas en Dieu. C'est ça, dans le livre des Proverbes. En compagnie des moqueurs, fais attention, parce que tes compagnies ne te feront pas porter du bon fruit. Pour porter du fruit, il faut parfois faire des choix. Et se séparer de certaines personnes, pas les haïr, pas les rejeter, pas ne plus les voir, mais ne plus être de leurs amis. Et méditer la parole de Dieu. Amen. Vraiment, on ne produit que des ronces et des épines par nous-mêmes. Si nous voulons un bon fruit, il faut revenir à la méditation, à l'amour de la parole de Dieu. Amen. Après, rapidement, je n'aurai pas le temps de lire avec vous ces passages que j'avais prévus. Comment porter du fruit, avoir un cœur honnête et bon. Amen. Honnête et bien disposé pour recevoir la parole de Dieu. On va lire quand même un texte, Jean chapitre 12, verset 23. Parce que ce texte-là est fort, à mon avis. Jean chapitre 12, verset 23. Jean 12, 23. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Comment porter beaucoup de fruits? Pas un peu, mais comment porter beaucoup de fruits? La croix. La croix. Christ est mort, et parce qu'il est mort, l'Église a fleuri. Alléluia. Je pense que ce que je vais vous dire très rapidement ne sera pas compris par tous, mais il y a des fruits que nous ne porterons que quand ce sera très dur et qu'on mourra. Il y a des fruits qu'on ne portera que quand vraiment le Seigneur crucifiera notre orgueil, en permettant parfois un travail où on est humilié par les païens. C'est la croix. Le Seigneur nous fera porter du fruit en nous faisant passer par le même chemin que lui, par l'œuvre de la croix. Où parfois l'on devra renoncer à être aimé des autres. Et pourtant, on accorde beaucoup d'importance à être apprécié, à être flatté. Les psychologues ont démontré d'ailleurs dans la psychologie du travail que c'est l'un des leviers les plus importants pour la motiver les gens au boulot. Ayez de la reconnaissance envers vos subordonnés et ils se mettront plus à travailler. C'est de la psychologie, c'est parfois de la manipulation, parce qu'on est fait comme ça. Mais la croix, c'est le contraire. La croix, c'est même si on ne t'aime pas, tu dois apprendre à ne plus t'aimer toi, mais à aimer les autres. Alléluia. La croix. Il y a un fruit que nous ne porterons que par la crucifixion de choses en nous, profondes. Et nous, comme le Seigneur, nous dirons parfois, Seigneur, non. Je ne veux pas cette coupe si elle pouvait s'éloigner de moi. Mais non pas ma volonté, la tienne. Alléluia. Enfin, je termine avec le don prophétique qu'on a entendu tout à l'heure. Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Luc 13, versets 6 à 9. J'ai seulement encouragé ce matin. Le frère a donné l'introduction et un don a donné la conclusion. Il ne faut pas que ce soit tous les dimanches comme ça, ce ne serait pas bon. Mais une fois de temps en temps, cela peut faire du bien. Luc chapitre 13, versets 6 à 9. C'est sur la patience. Luc 13, versets 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il l'église? Une chaise dans l'église, inutilement. » Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Amen. Quelle belle parole. Amen. C'est cette patience, nous l'avons entendu tout à l'heure, je ne serai pas long non plus sur ce sujet-là. On l'a dit, pas toujours facile de porter du fruit depuis la malédiction. Mais nous voudrions avoir de la patience pour vous et vous aider. Parce qu'il ne fait pas que d'avoir de la patience. Il va creuser autour, il va mettre du fumier, il va se donner du mal pour que l'autre puisse porter du fruit. Ça sera mon mot de la fin. Nous voulons porter du fruit, mais nous ne voulons pas avoir une mentalité de rentabilité. Parce que quand on parle d'être fécond, de porter du fruit, on confond aussi avec cette mentalité du monde de la productivité et de la rentabilité. Nous ne voulons pas ici mettre la pression aux chrétiens pour qu'ils soient rentables pour Dieu. Nous sommes tous libres en Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour nous libérer. Et tout ce que nous faisons pour lui, ça doit être motivé par l'amour. Amen. L'amour. Vous n'êtes obligé en rien, si ce n'est l'obligation de l'amour. Puisqu'il m'a aimé, alors je veux tout lui donner. Alléluia. Mais soyons patients. Nous l'avons entendu tout à l'heure. Il faut du temps parfois pour porter du fruit. Il faut beaucoup de temps. J'avais planté un arbre. Alors vous allez me dire, c'est parce que c'est dans le nord. Mais non, il pleut bien dans le nord, donc ça favorise ça normalement. Dans mon jardin, et j'étais impatient. Dès la première année, je suis allé voir s'il portait du fruit. Bon, il était tout petit, mais voilà. J'ai dû attendre 4 à 5 ans pour commencer à voir les premiers fruits. Ça m'a donné une leçon. Je me suis dit, c'est vrai, Seigneur. Lui qui veut le fruit, lui qui a créé les arbres fruitiers, il les a créés de façon à ce qu'il faut quand même quelques années avant de porter les premiers fruits. Amen. Alors, pour ceux qui ne portons pas de fruits, portons le fruit de la patience et de l'amour. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bénis ta parole, Seigneur, et surtout, fais ce que nous avons partagé ensemble, que notre assemblée devienne une vigne qui porte un beau fruit à la gloire de ton nom. En Jésus-Christ, je te fais cette prière sincère pour nous tous. Amen. Amen. On va chanter peut-être un dernier cantique.